Je suis toujours au Festival du film francophone de Namur, 32e édition, et j'ai la joie de retrouver Martin Provost. Bonjour.
Bonjour.
Très tôt dans l'après-midi, malgré toutes vos obligations en tant que président des membres du jury des longs métrages cette année.
Oui, je sors de table.
Voilà. Et malgré tout, vous avez le temps de faire des interviews, et pourtant vous avez un programme conséquent en tant que président cette année. Vous avez tout de suite accepté cette invitation de la part du FIF ?
Ah oui, tout de suite, parce que je me souvenais avec émotion d'être venu ici avec Le Ventre de Juliette, qui est mon deuxième film. Si, on pourrait presque dire que c'est le vrai premier film, celui que j'avais fait avant, Tortilla et Cinéma, j'avais vraiment fait avec des bouts de ficelle. Et le seul festival qui m'est invité, c'était le FIF. Et je me revois arriver dans cette pièce d'ailleurs.
Le foyer du théâtre.
Le foyer du théâtre, j'étais très très impressionné, j'avais peur de tout, enfin voilà. Et bon, quelques années après, je reviens, président du festival, et c'est agréable de voir le chemin parcouru. C'est toujours intéressant d'être un peu le petit poussé, de revenir sur ses pas et de voir où on en est. Voilà, ça remet les pendules à l'heure.
Et là, cette année, avec les films que vous avez à visionner, il y a aussi des découvertes, des jeunes justement, qui sont là peut-être au début de leur carrière filmographique.
Oui.
Et donc c'est intéressant aussi de voir l'effervescence, les pépites en devenir.
Oui, c'est intéressant. On a une espèce d'état général du monde cinématographique, puisqu'on voit pas mal de films, plusieurs films par jour. C'est comme une espèce de chemin initiatique qui se dessine comme ça en quelques jours, avec des enthousiasmes, des déceptions, des discussions avec les membres du jury, des rencontres, et puis petit à petit on sent qu'on forme une cellule comme ça et qu'on va tous tomber d'accord pour aider, soutenir un film qui le mérite à nos yeux et un metteur en scène et une entreprise.
Et on imagine que vous avez déjà un agenda très rempli vu que vous regardez tous les longs métrages. Est-ce que vous avez le temps d'aller quand même dans les autres sections pour voir d'autres films ?
Non. Et de toute façon, j'irai pas. Parce que je suis allé voir un autre film d'ailleurs. Et je vois que ça me perturbe parce qu'il ne fait pas partie de la sélection. Je l'ai beaucoup aimé. Et du coup, je l'ai regretté. Et ça perturbait un peu. Je pense que quand on est président du jury, il faut respecter le challenge qui est de rester dans une sélection parce que c'est à l'intérieur de cette sélection qu'on va avoir à faire un choix. Et si on commence à regarder partout ailleurs, là, à mon avis, je serais complètement perdu.
Votre parcours, vous avez été attiré aussi par le théâtre, par l'écriture. Après, évidemment, la réalisation. Est-ce que quand vous voyez les films, vous avez toutes ces casquettes qui vous viennent à l'esprit pour estimer le travail parcouru ?
Pas consciemment, mais je pense que toutes ces casquettes sont en moi.
Mmh.
Oui, parce que j'ai eu un parcours complètement atypique. Finalement, je suis un autodidacte et je me suis fait tout seul. Donc,
initié par votre grand-père, non ?
Oui, initié par mon grand-père qui faisait des films en amateur. Vous avez une très bonne mémoire. Mais j'avais 6 ans quand j'ai fait mon premier film avec lui et j'étais tout petit. C'était Pierre et le loup et je jouais Pierre. Mais enfin, en même temps, c'est vrai qu'il y avait ça autour de moi, donc un intérêt très tôt pour le cinéma. Et puis toute mon adolescence, je séchais les cours pour aller au cinéma. Et je me souviens avoir vu des choses très très fortes très tôt qui m'ont marqué profondément. Voilà, ça a toujours été moi. Alors après le théâtre, tout ça, ça a été aussi comme ça, parce que j'ai pas fait une école, donc il fallait que je gagne ma vie, donc je me suis dit, je vais être acteur. Mais je vois que tout ça, j'avais de la peinture aussi beaucoup.
Au Beaux-Arts ?
Non, toujours tout seul. J'ai toujours fait tout seul. Et j'étais pas mauvais, parce que je vois bien ce qui reste. J'ai un âge où je fais la part des choses. Et tout ce que j'ai écrit, j'ai des malles pleines. tous mes cartons à dessin, tout ça. Je dis, oh là là, mon Dieu, je me dis, c'est fou. Mes parents n'ont pas vu que j'avais tout ça dans les mains. Visiblement, non, c'est pas grave, en tout cas. Ça m'a forcé à me démerder tout seul. Et c'est une grande force avec le temps. Donc ça fait une reconnaissance tardive. Mais un parcours, je trouve, passionnant et intéressant. Et du coup, de voir tous ces jeunes metteurs en scène qui arrivent, tous ces gens, c'est pas que des jeunes d'ailleurs, parce qu'il y a des films dans la section des longs métrages, c'est pas que des premiers films du tout. Mais en effet, je crois que j'ai l'œil très aiguisé, très très aiguisé, et que je vois où ça pêche, où c'est bien, la personnalité. C'est ça qu'on attend en fait. C'est pas que ce soit parfait, c'est qu'il y ait quelque chose d'autre qui arrive. Moi, c'est ce que j'attends toujours, c'est ce que j'attends sur un plateau. C'est pour ça que je travaille beaucoup. C'est que tout soit presque balisé pour que quelque chose nous dépasse. Et c'est pareil en tant que spectateur, j'ai besoin d'être dépassé. J'ai besoin d'être emporté, j'ai besoin de comprendre. Et quand ça arrive, c'est merveilleux.
Alors, Martin Provost, je rebondis sur ce que vous disiez en début de question, là, de réponse. Vous avez pu vous permettre de toucher à beaucoup de choses parce que vous n'êtes pas mis de limite, vous êtes prise en charge. Mais il me semble, dans mon souvenir, que votre papa n'était pas tellement...
J'ai pas compris, j'étais pris en charge par quoi ?
Par vous-même, c'est-à-dire vous
avez pu... Mon père n'était pas du tout...
enthousiaste ?
Non, mon père n'était pas enthousiaste, mais il n'était pas grand-chose, mon père, par rapport à ça. Il y avait une forme d'année... Je crois qu'il s'en foutait un peu. L'essentiel, c'était que je m'en aille, pour lui. Et voilà, et que je ne sois pas à sa charge. Donc, ça a pris un petit peu de temps. Il m'a aidé, hein, financièrement. C'était pas le Pérou, mais enfin, j'avais de quoi survivre. C'est déjà pas mal, il y en a qui ont pas ça. Et c'était dur, mais voilà, aujourd'hui, j'ai absolument aucun regret, parce que j'ai compris aussi ce qu'il a essayé de faire avec moi. Je pense qu'à l'époque, j'étais très jeune, et puis il y a eu des drames familiaux, j'avais perdu mon frère dans un accident de voiture. Enfin, voilà, donc il y avait beaucoup de choses... qui ont fait que ma famille a été détruite, presque disloquée, et que je me suis barré, et que ça a été finalement, même si c'était très tôt, presque trop tôt, la chose de ma vie.
Quel âge ?
Mon frère et moi, j'avais 16 ans, et j'ai commencé à fuguer tout de suite. Et à 18 ans, j'étais parti. Donc, j'ai laissé une mère en très mauvais état derrière moi, et un père, à mon avis, qui n'allait pas mieux, mais...
Pour les parents, s'ils cachaient socialement ?
J'ai pas entendu.
Pour l'apparence sociale, il essayait de cacher ses émotions.
Oui, on était dans une espèce de truc, pas de contact. Mon père nous séparait de ma mère, je me souviens. On n'a jamais parlé de la mort de mon frère ensemble. On n'a jamais pleuré mon frère. Ne jamais aller au cimetière. Enfin voilà, c'était
tabou
quand même. Un tabou parce que trop de douleur aussi. Et puis oui, le carcan d'éducation. Enfin, tout ce qu'on peut. Mais c'est une autre époque. Aujourd'hui, je vois que tout ça n'est plus là. Donc, c'est intéressant de vieillir pour ça, parce que je pense à mes grands-parents, enfin, à tous ceux qui ont eu avant moi, qui me transmettaient des choses, et j'étais très à l'écoute. J'ai toujours été très preneur, moi,
des conseils
du passé, en tout cas de ce que j'entends. Et pas spécialement des conseils, non, je crois que je ne peux pas trouver des conseils, mais en tout cas d'écouter ce qui s'était passé dans les générations d'avant. Ça m'a toujours passionné. Et je vois que c'est le terreau, en fait, et que c'est très, très important d'avoir ça. Et aujourd'hui, je suis à une position où je peux commencer à donner des petites choses comme ça.
À transmettre à
des gens plus jeunes. Et je vois que j'arrive à le faire. Donc, c'est gratifiant.
Et puis, vous parlez de la disparition de votre frère, qui a vraiment ébranlé votre famille. Vous-même, vous êtes un miraculé. On l'a découvert avec sage-femme que... Vous avez frôlé la mort, et donc j'imagine que toutes ces blessures dans la famille étaient un bagage qui nourrit aussi votre filmographie.
Oui, parce que je me souviens, à la mort de mon frère, c'est là où j'ai eu mon premier choc cinématographique. J'avais 16 ans, on m'a laissé faire ce que je voulais, et les voisins nous ont emmenés au cinéma, et j'ai vu Crier chuchotement de Bergman. J'avais 16 ans. Et dans Crier chuchotement, il y avait une scène qui m'a marqué à vie, qui est un petit peu dans Sage-Femme, enfin qui m'a inspiré une scène dans Sage-Femme, et c'est le moment où Anna, la bonne, aide à mourir Harriet Anderson et la prend dans ses bras, et c'est une image tellement magnifique de Bergman que tout le monde connaît, hein. C'est cette femme comme ça, les seins nus, qui tient cette mourante dans ses bras. Et je me souviens, j'avais l'affiche au-dessus de mon lit. Enfin, c'est un film qui a marqué ma vie, mais alors je ne l'ai pas compris quand je l'ai vu. Mais c'est longtemps après que j'ai compris que c'est ce que j'avais pas pu faire pour mon frère. Et que personne n'avait fait, parce que mon frère est mort tout seul à l'hôpital. Et donc, ça a été une blessure énorme. Et je pense que ça a donné une direction à toute ma vie. Et Sage-Femme a été un petit peu la conclusion de tout ça, puisque quand j'ai découvert que j'avais été sauvé par une sage-femme à ma naissance, que j'aurais pas dû être là, et ça, je l'ai toujours su quand même, plus ou moins, j'ai vu que le fait d'avoir ce sang-là dans les veines, c'était comme si j'étais cette femme, en fait, dans Cri chuchotement, que j'avais cette capacité-là d'accueil, que en tout cas, j'ai été allé vers ça. Et que c'était très, très important dans une vie de s'ouvrir à l'autre et à la douleur de l'autre et de savoir accueillir l'autre quand il est mal. Et, Et la mort, du coup, n'est plus une chose si grave que ça. C'est un passage comme un autre qui fait partie de la vie. On en a tellement peur dans nos sociétés. On a même enlevé le mot. On dit plus il est mort, il est décédé, qui est un mot qui ne veut rien dire. Et alors que le mot mort est magnifique, à chaque fois je dis cette phrase de Léo Ferré, je la chante, et dès lors, miracle de l'amour, il semble que la mort est la sœur, miracle des voyelles, il semble que la mort est la sœur de l'amour. C'est magnifique, on ne peut pas faire ça avec des CD. Hein. C'est un beau mot, la mort.
Et d'ailleurs, dans certaines cultures, je pense au Mexique, c'est festif.
Bien sûr, bien sûr. En Asie, on s'habille en blanc. En Inde, on brûle les corps parce qu'on sait qu'ils passent de l'autre côté. C'est un peu ça que j'ai montré dans Sage-Femme, avec la barque à la mort de Catherine Deneuve, enfin tout ça. Et je voyais, j'étais surpris, je me disais, mon Dieu, où on est dans notre pays? Il y avait des gens qui pensaient que Catherine Deneuve était dans la barque. Et je me disais, c'est fou comment on peut penser une chose pareille. Donc ça veut dire qu'on est quand même un peu loin de notre passé, de nos symboles qui nous apportent une lecture, une grille de lecture dans la vie quotidienne, qui aide beaucoup à vivre. Sinon... si on est juste des consommateurs, c'est un peu maigre.
C'est peut-être dû au carcan de l'éducation judéo-chrétienne, l'héritage de l'Europe.
Je pense qu'il y a ça, et puis il y a aussi le monde tel qu'il est. J'en reviens à cette société de consommation qui je trouve totalement absurde et qui nous empêche, qui essaye en tout cas de nous empêcher de voir plus loin, de voir autre chose que son pouvoir d'achat. Si on est concentré sur le pouvoir d'achat, je pense que... l'existence doit être un peu morne, c'est-à-dire elle se passe entre un supermarché, un truc, qu'est-ce que je n'ai pas. Et pour moi, l'existence n'est pas là. C'est une interrogation, l'existence. On est un point d'interrogation dans l'univers et il y a peut-être des réponses qu'on peut avoir. Et c'est magnifique. Moi, j'en ai en tout cas. Je ne dis pas que j'ai raison, hein, mais je les ai pour moi. Et je vois que ça m'aide à vivre, ça m'aide à créer, ça m'aide à voir le monde, à avoir une vision du monde et des autres plus large, me semble-t-il.
Et ce consumérisme et cette frénésie d'achat, ou de consommer en tout cas, ça vient depuis les années fin 60, début
70. Je suis né avec, voilà. C'est-à-dire j'ai vu ce monde-là arriver, et au début, dans les années 60, j'étais enfant, tout petit, hein, mais je me souviens, la première 404, c'était les 30 glorieuses, tout était possible, hein, et nous on n'était pas riches du tout, mais enfin voilà, j'ai vu un monde se développer. Et j'ai vécu dans différents milieux puisque j'étais issu de deux mondes comme ça. Il y avait de l'argent d'un côté, il n'y en avait pas de l'autre. Et
donc le fossé se creusait.
Le fossé n'a cessé de se creuser avec le temps. Et j'en ai souffert. Et puis j'ai appris aussi à travers tout ça à avoir du recul, à regarder ce monde, à me rendre compte que c'était pas les choses qui nous... Puis j'ai quand même un peu de lecture aussi. c'est pas les choses qui nous rendent heureux. Il faut avoir le minimum. Il faut avoir... On a besoin de se nourrir, de s'habiller. Hein, mais que ça ne pouvait pas être un but en soi, que c'était pas possible. Et malheureusement, c'est quand même ce qu'on nous fourre dans la tête, ce qui est une aberration.
Et Martin Provost, je rebondis sur ce que vous dites. Le matériel possédé n'est pas un but en soi. Il y a de belles rencontres à Namur pour revenir au festival. Et ça, c'est vraiment enrichissant. C'est la vraie nourriture de l'humanité.
Évidemment. On n'est rien sans les autres. C'est-à-dire, il y a une phrase très belle que j'ai notée. Je vais vous la donner. Si vous me laissez deux minutes, je l'ai notée là.
Martin Provost est en train de chercher la phrase qu'il va nous donner.
Elle est tellement belle. C'est une phrase tellement belle. Mais je ne la retrouve pas. Elle est trop loin. J'aurais dû la préparer. C'est une phrase de Virgile qui est très belle. Bon, écoutez, tant pis, ce sera plus.
Même si vous l'estropiez un petit peu, donner le contenu.
Il y a une phrase qui est très belle. C'est « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » C'est un proverbe.
De quel pays?
Mais je ne sais plus. Parce que j'ai pas noté le truc. Il y en avait une autre, je la retrouve pas. Oui, toutes les choses ont des larmes.
De Virgile?
Oui. Et bien ça, je pense que quand on est dans le consumérisme, on peut pas le voir. Mm-hmm. Parce que les choses n'ont plus de vie. Mm-hmm. Elles sont juste des objets qui comblent un vide.
Même dénués de leur essence.
Dénués de leur essence et qui n'ont plus... voilà, on veut un truc, on veut autre chose le lendemain. C'est tout le temps, c'est tout le temps. Et je pense que ce monde-là est en train de mourir. Et les gens ne s'en rendent pas bien compte. Et c'est absolument nécessaire de prendre ça en compte et de se préparer à ça. Mmh. Parce que ce monde-là, moi, je vous donne ma main à couper, va mourir. Mmh. Ou alors on va tous
détruire. C'est la fin de l'humanité.
Et ça n'est pas possible. Mmh. Donc, si chacun fait un petit peu le travail, au cœur de lui-même, avec son entourage, en s'ouvrant à des choses plus passionnantes que le supermarché, les boutiques de fringues, je pense qu'on peut peut-être...
Tout simplement à l'altérité.
À l'altérité, regardez ce qui s'est passé avec les migrants, c'est tragique. C'est honteux. C'est honteux. L'Amérique brandit son grand drapeau alors que quand même ils ont expédié tous les Indiens avant eux. Donc ils n'ont de leçons à donner à personne. Tout ça, c'est parce qu'on oublie l'histoire, on veut effacer l'histoire, on veut effacer le passé et être dans un présent qui, sans passé, n'a pas de sens.
En même temps, quand on a un locataire qui a été quand même élu par son peuple, un nouveau locataire dans la Maison Blanche, qui est un businessman, donc dans l'immédiateté, dans le profit, c'est inquiétant.
Ah ben pour moi, c'est l'apologie justement de ce monde-là. C'est le reflet de là où nous en sommes. Ouais. Ça pouvait pas être autre chose. Faut pas se raconter d'histoire.
Et vous, en tant que cinéaste, puisqu'on, grâce à vous, on s'était rencontrés à l'époque, déjà pour la radio, pour Séraphine, avec Yolande Moreau, magnifique, Violette, qui nous faisait découvrir un destin vraiment poignant avec Emmanuel DeVos, récemment Catherine Deneuve face à Catherine Faux, vraiment le yin et le yang. Et vous avez une sensibilité particulière pour montrer des destins féminins. D'ailleurs, les femmes sont assez absentes, enfin, elles sont peu nombreuses dans le monde du cinéma, que ce soit... En tant que réalisatrice ou en tant que scénariste, elles sont quand même moins nombreuses. Donc, vous leur rendez hommage à travers votre filmographie.
Oui, je parle d'elles. Je me sens proche d'elles. Elles m'intéressent. J'ai plus de mal à écrire pour les hommes en disant que ça n'est pas naturel pour moi. Mais il y a des rôles d'hommes quand même.
Oui,
enfin, ils sont toujours là. Mais c'est pas... Voilà, pour moi, c'est des
Olivier
rôles secondaires.
Olivier Gourmet, qui
est merveilleux. Enfin, voilà. Et qui répond toujours à l'appel, quoi que je lui propose. Et c'est vrai que j'aime mettre les femmes en avant. Et donc, je continue à creuser ce sillon-là. Ce n'était pas du tout conscient, hein, niveau volontaire. On me le fait beaucoup remarquer. Alors, à chaque fois, je dis la même chose. Je dis, bah oui, mais si je faisais des films avec les hommes, on ne me poserait pas la question.
C'est vrai.
Et donc, voilà, ça veut bien dire quelque chose. Mmh. En même temps, il me semble que quand même, ça s'est équilibré, que la différence... Mmh. Le monde entre les hommes et les femmes n'est plus le même que celui de mon enfance. Hein, Et que bon.
Sauf au niveau du salaire, il paraît. D'après ce que me disait Alexandra Lamy.
Eh ben oui, mais j'ai vérifié. Et c'est lié au fait que les heures de travail ne sont pas les mêmes. C'est aussi un calcul qui est fait, je crois, parce que la présence des femmes à cause des enfants et tout ça n'est pas la même. Donc quand on fait un barème, on se rend compte qu'elles gagnent moins. Mais ça ne veut pas dire que les salaires sont plus bas. Donc nuance. Et je pense qu'il faut aussi peut-être adoucir tout ça. Et arrêter cette rivalité, parce que c'est une autre forme de rivalité. Pour moi, l'égalité est là, quand même. Moi, je vois des hommes aujourd'hui qui remplissent la machine à laver la vaisselle, torchent les gosses. Et c'était pas comme ça quand j'étais petit. Hein.
Même Elton John.
Oui, et même mon père n'a jamais levé le petit doigt.
Il lisait le journal en attendant le repas.
Exactement.
Sur la table.
Voilà.
On a tous connu ça.
Voilà, et ça n'existe plus. Il faut calmer le jeu, je pense. Il faut calmer le jeu parce que je pense que le vrai combat n'est plus là. Et que le vrai combat, il est dans la réunification de tout pour vraiment transformer le monde pour qu'il ne se détruise pas. Et qu'on on accède à, je dirais, à ce que Edgar Morin appelle la voie, c'est-à-dire ce que pourrait être notre univers si on prend les choses en main, qu'on change tout, qu'on arrête Monsanto, qu'on arrête avec les industries fossiles, qu'on arrête avec la pollution, qu'on arrête avec la bêtise, la télé à outrance et la misère pour tellement de gens. Donc il y a des solutions, hein, on le sait. L'industrie, l'agriculture biologique fait des merveilles dans certains pays. On se garde bien de le dire. Et je vois près de chez moi, j'habite à la campagne, ils balancent du désherbant dans tous les champs. J'ai envie de pleurer quand je vois ça. Je me dis, mais on est fous, quoi. On sait que ça pollue, que ça abîme les nappes phréatiques, que
les
ça
abeilles.
Tue les animaux, que ça tue les abeilles. Et ils balancent des à l'automne, ils tuent tout avec du. Je pense que c'est du Roundup. Hein,
voilà. Voilà, mais le lobby est puissant.
Mais le lobby est très puissant, ça y est, là. Il y a un article qui dit que ça y est, ils ont fait des faux articles, Monsanto a fait des faux articles. Que ces produits étaient innocents pour promouvoir les produits. C'est des scientifiques payés qui ont fait ça. C'est bien que ça expose au grand jour.
On sait que, par exemple, la nappe phréatique dans le nord de l'Argentine est totalement détruite.
Mais partout en Inde, les nappes phréatiques sont captées pour faire du Coca-Cola. Eh bien, il faut arrêter de boire du Coca-Cola.
Voilà. On dira que je suis au, à l'expresso.
Non, mais c'est un moment, c'est... il y a des trucs qu'il ne faut plus faire.
Bon, maintenant, mon éducation judéo-chrétienne m'a enlevé ma question suivante. Enfin, ma question suivante, c'était, vous avez parlé de Bergman. J'imagine qu'il y a des cinéastes qui vous ont vraiment totalement comblé, nourri.
Oui.
Est-ce qu'il y a des grands, quel que soit, pas la France seulement, je parle...
Tous les pays du monde, c'était quand même un âge d'or du cinéma. Hein. Les années 70,
Fellini.
70-80, Fellini, je me souviens d'avoir vu le Casanova à sa sortie. Et il y avait la queue, les gens faisaient la queue. C'était extraordinaire. Et c'était un choc. Donna Sutherland qui s'était fait limer les dents pour le rôle, totalement chaud, avec cette coiffure incroyable. L'univers de Nino Rota, c'était très fort. Donc après, j'ai découvert tous les autres films. Bresson, que j'ai découvert, je sais, une rétrospective au Saint-André-des-Arts, j'avais 19 ans. Et j'ai vu tous les Bresson. Et je les revois avec toujours autant de bonheur. Kurosawa, Rossellini. J'essaie de trouver Greenaway en Angleterre, Fassbinder, Tous les hommes s'appellent Ali, qui est un très grand film, Carlos Saura en Espagne, Buñuel, Viridiana, c'est un film que beaucoup de gens ne connaissent pas, qui est sur la pauvreté, justement, qui est très très intéressant.
Et puis, oui, il y a aussi Nazarene, qui est au Mexique,
oui,
d'ailleurs.
Oui, tellement, il y avait tellement, il y avait tellement. Naruse au Japon, Oshima, enfin je peux pas faire du name dropping. Et puis en France, Rivette qui m'a bouleversé, et Truffaut, et puis plein d'autres, Bergman, Godard évidemment.
Qui nous a un peu suisse quand même.
Un peu suisse, mais quand même très français.
Oui.
Franco-suisse.
Sauf l'accent, hein, il est resté suisse.
Il est resté suisse, mais enfin, il faisait ses films en France. Hein. Et puis Piala. Ouais, c'était quand même une époque très riche. Et très riche parce que les metteurs en scène étaient très identifiés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est des projets, c'est des idées, et moins des metteurs en scène. Alors, il y en a toujours quelques-uns, on est quand même quelques-uns, mais aujourd'hui, tout le monde peut faire un film. C'est un peu, vous avez une idée, on va vous donner la possibilité de, pourquoi pas, hein. Et est-ce que ça fait des cinéastes? Je ne suis pas sûr. Voilà, c'est aussi un peu un problème de notre époque. Beaucoup de livres, beaucoup de films, beaucoup de trucs, et du coup... On est 20 films à sortir par semaine, ce qui est presque suicidaire. Donc beaucoup de gens sacrifiés. Et beaucoup de gens, je trouve, qui, ou parce qu'ils sont connus, tout ça, vont faire un film, et n'ont peut-être pas grand-chose à dire, ou ne sont pas cinéastes, tout simplement. Je pense que c'est une fonction. C'est important qu'il y ait des cinéastes, pas juste des faiseurs de distractions.
Mais il semblerait que des festivals comme, je pense à Namur évidemment, mais je pense, voilà, ça remet les choses en place. Parce que ça rappelle le cinéma de genre, le cinéma d'auteur, par rapport justement aux multiproductions.
Ah bah oui, ici on est dans un festival digne de ce nom, c'est-à-dire qui promouvoit le cinéma d'auteur, un cinéma de réflexion, un cinéma intelligent. Et je vois la qualité des films qui nous sont proposés. Et évidemment, on est en plein dedans. Hein. Mais ça a toujours été Namur.
Et puis, bon, évidemment, il y a une salle, l'Eldorado, qui a disparu. Donc ça montre bien que malheureusement, les salles se transforment en galeries marchandes ou en restaurants. Par contre, vous avez quand même un bon espoir que le cinéma touche les jeunes générations. Il y a quand même maintenant...
Il y a du boulot à faire quand même, parce que c'est vrai que les jeunes générations ne vont pas au cinéma. Ils voient les films sur l'ordinateur quand ils les voient. Donc, alors, il y a Kechiche qui attire les jeunes au cinéma. Il y en a quelques-uns qui... moi, je n'attire pas les jeunes au cinéma.
Je ne suis pas si vieille, hein, mais nous on adore nos...
Mais je vois, moi c'est plutôt à partir de 40 ans.
Voilà.
C'est pas que des vieux, mais peut-être parce qu'ils connaissent pas mon cinéma ou qu'ils n'iront pas directement. Violette,
plus
je pense que c'est un film qui. Mais je pense qu'elle verra plus tard, oui. Et voilà.
Ne serait-ce que pour les figures féminines que vous avez fait découvrir sur grand écran.
Oui, parce que Séraphine et Violette, quand même, ont retrouvé leur place. Voilà. Dans la société,
une légitimité
qu'elle n'avait plus. Hein. Séraphine est complètement oubliée. Et Violette est entrée à la Bibliothèque nationale grâce au film. Donc c'est formidable pour elle et pour les gens qui vont la découvrir.
Martin Provost, la vieille journaliste quadragénaire doit vous quitter. Dernière question, on peut parler.
Vous avez quel âge ?
49, il y a une semaine. Voilà. Et vous pouvez quand même nous donner un petit peu, nous mettre en appétit pour vos projets, votre prochain film ?
Alors, je vais faire un film au Japon. Et c'est un projet qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur, sur lequel je suis en train de travailler encore, qui n'est pas terminé là. Je suis en pleine écriture. Je retourne au Japon parce que je fais partie du jury du Festival de Tokyo. Là, j'y étais au mois de juin avec Sage-Femme, qui sera en décembre à Tokyo, enfin au Japon. Mes films me plaisent beaucoup aux Japonais. Et le cinéma japonais a eu beaucoup, beaucoup d'importance pour moi dans ma jeunesse. Et quand j'y suis allé la première fois avec Violette, je suis allé me balader. Et je suis allé jusqu'à Naoshima et j'ai eu l'idée d'un film, d'un road movie avec deux femmes françaises.
Française.
Perdues au Japon.
Oui. Avec des Japonais aussi.
Avec plein de Japonais, mais les rôles principaux seront deux femmes au Japon.
Martin Provost, arigato gozaimasu. Je dois dire Martin Provost-san. Et on se réjouit. Gambantele, comme on dit au Japon.
Mieux que moi, en tout cas.
Voilà. Et je me réjouis de découvrir ce film. Merci, en tout cas,
merci
de cet
vous.
Entretien. Et je vous laisse à vos obligations.
À bientôt.